C'est mieux que ce soit toi.
Moi, on dirait ça, on peut dire.
Alors, moi, je vais vous le dire. C'est un sujet le plus intéressant pour vous. C'est le monde des logiciels, par rapport effectivement aux OGM et aux médicaments. Alors, d'abord, j'aimerais revenir sur certains points que.
C'est pas vrai que c'est moins intéressant.
Mais pour le public, c'est, je pense que c'est intéressant. J'expliquerai pourquoi c'est intéressant. J'aimerais quand même sur certaines choses qu'a dit Christine. Rappelez qu'il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que le brevet était. Enfin, toute la propriété intellectuelle, je vais les guillemets, j'expliquerai pourquoi après, a été inventée pour le domaine matériel avant toute chose. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de l'immatériel. Et ça change fondamentalement la donne. L'explication est très simple, en fait. Dans le domaine de l'immatériel, ce qui est vendu, donné, prêté, est forcément perdu par la personne qui le donne, le vend, le prête. Si je vous donne un bonbon ou une voiture, je n'ai plus la voiture. Dans le domaine de l'immatériel, ce qui est vendu, prêté, donné, n'est absolument pas perdu par la personne. Donc c'est de l'information. Donc ça peut être une information de type, je dirais, une information sur le dernier résultat de foot. Ça peut être un logiciel, parce qu'un logiciel, c'est simplement de l'information. Déjà, c'est un premier changement entre le matériel et l'immatériel, c'est qu'on ne perd pas ce que l'on donne, ce que l'on vend ou ce que l'on prête. La deuxième chose, le matériel, c'est un univers de pénurie. Évidemment, par rapport à l'immatériel, en fait, c'est un univers d'abondance, vu qu'un objet qui existe quelque part, sur, par exemple sur une machine, peut être dupliqué sans coût, ou à coût très faible, sur des tas de machines. Donc on est dans un domaine du matériel qui est une pénurie. Évidemment, s'il y a 1000 voitures quelque part, elles ne peuvent être utilisées que par 1000 personnes. Dans le domaine de l'informatique, enfin de l'immatériel, si on a une information, elle peut être partagée par 10 personnes, par 100 personnes, par 1 million de personnes. C'est le principe du logiciel. C'est pour ça que, par exemple, comment aujourd'hui dans le logiciel, les gens se sont fait des fortunes monstrueuses, comme Bill Gates, c'est qu'ils ont appliqué le principe de l'économie du matériel sur le matériel en vendant 1 million de fois ou plus le même objet à chaque fois. Ce qui leur a coûté, en fait, pour faire un objet, le vendre 100 millions de fois, par exemple, leur coûte rien de plus en termes d'investissement. Donc dans le domaine de l'immatériel, l'investissement est sur la création de la première objet. Dans le domaine du matériel, l'investissement est à la fois sur la création de la première version, mais aussi sur la duplication. Dupliquer une voiture coûte de l'argent. Dupliquer de l'information, ça ne coûte rien. Et ça coûtera de moins en moins de choses. Avant, c'était sur des disquettes qui coûtaient 10 balles. Aujourd'hui, par Internet, ça coûte quelques centimes de téléchargement. Ça, c'est un premier changement qui est important. Et ça implique qu'on repense la propriété intellectuelle, toujours avec des guillemets, en pensant au fait qu'aujourd'hui, on est dans un domaine immatériel. La deuxième chose, c'est qu'on va souvent pas employer le terme propriété intellectuelle. On va parler peut-être aussi de piraterie. Il faut éviter d'employer le terme propriété intellectuelle pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, ça présuppose le fait qu'il est naturel qu'il y ait une propriété sur ce qui est immatériel, sur ce qui est de l'information. Jusqu'à preuve du contraire, ce qui était vrai dans le domaine effectivement du matériel où mon stylo m'appartient et je l'utilise et si je vous le donne, j'en ai plus, donc j'ai plutôt un intérêt à pas vous le donner. Dans le domaine immatériel, bah, c'est pas forcément évident que le fait que je vous donne une information, que je vous donne un logiciel, pour moi ce soit une perte. Et d'ailleurs, dans le domaine du logiciel libre, on montre très bien que le fait que de donner le logiciel n'est pas du tout une perte, parce qu'il y a un déplacement économique sur un autre domaine, mais c'est pas le sujet. Et simplement penser que le terme propriété intellectuelle présuppose déjà qu'on accepte le principe qu'il y ait une propriété sur ce qui est intellectuel et ce qui est immatériel. La deuxième chose, c'est que la propriété intellectuelle, c'est un fourre-tout. Quand on vous parle de propriété intellectuelle, on parle de propriété industrielle, ben, il y a quoi? Il y a le droit des marques, il y a le droit des dessins, il y a le brevet, il y a le droit d'auteur. C'est un fourre-tout monstrueux. On ne peut pas parler de façon correcte sur la propriété intellectuelle en général, on ne peut parler que sur des points précis. Donc aujourd'hui, c'est le brevet. Moi, je vais vous parler un peu de droit d'auteur, parce que je vais vous expliquer pourquoi le droit d'auteur, c'est très bien. Enfin, pourquoi je vais essayer de vous expliquer pourquoi le droit d'auteur, c'est finalement pas trop mal, et que ça permet, en fait, dans le domaine du logiciel, de bien marcher par rapport au brevet. Mais quand on parle de propriété intellectuelle, c'est un terme dont il faut faire attention, parce que c'est un fourre-tout monstrueux. Et aujourd'hui, souvent, dans ce débat-là, je dirais qu'il n'y a pas de représentants. Des gros lobbies de propriété industrielle ou intellectuelle, mais souvent ils essaient de vous enfermer dans ce gros monstre en vous disant propriété intellectuelle, il faut refuser d'entrer dans ce domaine et vraiment de parler chose par chose, faire brevet, droit d'auteur, droit des marques, etc. Et en fonction effectivement du sujet, ben, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Et en fonction du domaine qu'on traite, on n'arrivera peut-être pas forcément aux mêmes conclusions dans le brevet, dans le domaine des OGM ou dans le domaine du logiciel. Ça, c'était une première chose. Donc ensuite, j'ai essayé de vous parler de brevet logiciel. Comme l'a rappelé Christine, le brevet, enfin tout ce qu'on peut appeler entre le terme propriété, a été inventé avant tout pour faire la progression du progrès, et non pas pour les auteurs ou les inventeurs. D'ailleurs, dans la Constitution américaine, c'est bien marqué qu'en fait, le monopole qui est accordé de façon temporaire, ce temporaire est très important, n'est fait non pas dans le droit des auteurs, mais simplement dans la promotion du progrès. On considère qu'en accordant de façon temporaire un monopole à un auteur, à condition que celui-ci reverse dans le domaine public au bout d'un certain temps ce qu'il a inventé, alors inventé entre guillemets, parce qu'aujourd'hui inventé ça ne veut plus dire grand-chose, on considère que ça va profiter au bien public. Donc les législateurs de tous les pays, même en Europe c'est aussi le cas, pensent la propriété intellectuelle dans le sens où finalement c'est un équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Et que ce qui doit prémunir, enfin, ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt public avant toute chose. Or, aujourd'hui, on a tendance à nous faire croire que, par exemple, le droit d'auteur, c'est le droit des auteurs, notamment, par exemple, dans la musique, etc., alors qu'en fait, c'est le droit des éditeurs, tout le monde le sait, que dans le domaine, effectivement, du logiciel, c'est pareil, c'est le droit des auteurs à produire des logiciels, pas du tout. On utilise un système de protection parce qu'on considère que ce système de protection permet à la fois de faire vivre les auteurs et de faire diffuser la connaissance. Mais ce qui est important, c'est la diffusion de la connaissance au final. Ce qui n'a aucun intérêt, je dirais, pour le public, à la limite, on s'en fout. Mais toute connaissance ou tout objet qui a l'intérêt pour le public dans sa majorité, ce qu'on peut appeler la société, doit être protégé quasiment au détriment de l'auteur. Ça, c'est une première chose. Dans le domaine du logiciel, on peut se dire qu'à la limite, bon, c'est un truc d'informaticien, tout le monde s'en fout, ça n'a aucun intérêt, c'est incompréhensible, c'est invitable. Sauf qu'il faut se rappeler qu'une chose, c'est qu'un logiciel, certes, est un outil, c'est une suite d'instructions, qui fait un certain nombre de choses, mais ce que fait ce logiciel, ben, généralement, il traite de l'information. Alors, il peut traiter de l'information comptable, par exemple, il peut traiter de la comptable d'une entreprise, mais il peut aussi traiter des informations privées, par exemple, permettre de vous envoyer des informations sur Internet, etc. Donc, la finalité d'un logiciel, c'est quand même de traiter de l'information. Et aujourd'hui, on est dans une société où on va de plus en plus vers une informatisation, vers une augmentation des échanges numériques, on le voit avec les diverses lois qui ont vu le jour. Et l'informatique prend de plus en plus de part dans la société. Je dis souvent en fait que l'informatique, c'est une condition sociale qui permet la captation des individus. Imaginez par exemple que quelqu'un possède, une grosse agence de photos, la principale agence de photos dans le monde, et traite en fait ces photos avec un certain nombre d'outils sur lesquels vous n'avez aucun accès. C'est-à-dire qu'en fait, vous dépendez de cet éditeur qui, par ces outils, vous permet d'accéder à ces photos, mais interdit à d'autres, par exemple, d'accéder aux mêmes photos, qui pour autant ils peuvent vendre, avec d'autres outils. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est le logiciel. Ce chose-là existe aujourd'hui. Je fais référence, bien entendu, à Bill Gates, qui possède aujourd'hui une des plus grandes fonds documentaires de photos, ce qui en soi n'est pas grave. Ce qui est problématique, ce qui pourrait être grave en soi, mais ce qui est problématique, c'est que l'accès à ces photos dépend d'outils informatiques qui sont faits par une autre société qui s'appelle Microsoft, qui dépend aussi de Bill Gates, et sur lequel, en fait, les informations qui permettent d'accéder aux photos ne sont pas accessibles. Je vais prendre un autre exemple. Supposons que vous vouliez écrire un programme qui fasse de la division rapide. Si vous voulez être le meilleur au monde, vous voulez faire un programme qui fasse la division rapide le plus rapidement possible. Eh bien, vous avez tout à fait le droit d'écrire un programme qui va le faire. Vous allez être protégé pour ce programme qui va faire cette programme de division rapide. Par contre, vous ne pourrez pas empêcher d'autres personnes d'essayer de mettre en place un autre algorithme, une autre méthode pour faire de façon plus rapide encore cette division. Cette idée-là générique de la division rapide, qui peut être basée sur différentes techniques, et souvent c'est des outils mathématiques, vous ne pouvez pas la protéger. Par contre, ce que vous avez, l'implémentation dans un langage informatique, c'est-à-dire dans un langage qui ressemble à l'anglais, de l'italien, etc., mais qu'un informaticien comprend, ça par contre vous allez pouvoir le protéger. Vous allez pouvoir le protéger actuellement en France, en Europe et aux États-Unis. En Europe c'est le droit d'auteur, aux États-Unis c'est le copyright, c'est un petit peu différent. Mais en gros, ce que vous protégez, c'est l'expression d'une idée. C'est-à-dire, c'est le programme, les heures que vous avez passées à mettre en place votre algorithme. Et là, vous pouvez le protéger. L'idée générale, vous ne la protégez pas. Ce qui permet à d'autres personnes, à partir de la même idée, d'écrire une autre façon d'arriver au même résultat et de vendre éventuellement ce résultat-là. Donc dans le domaine du logiciel, on est dans le cadre du droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, ça a plutôt été inventé dans le cadre plutôt des artistes, etc., du domaine littéraire. Alors ça a pas mal d'avantages de droit d'auteur, c'est qu'effectivement ça protège l'expression d'une idée plutôt que l'idée en elle-même. Donc ça permet à des gens effectivement d'écrire des programmes, de les vendre, de vendre du service autour, mais ça permet à d'autres personnes d'écrire des programmes différents, mais qui ont les fonctionnalités équivalentes. Un autre exemple, il existe des différents traitements de texte dans le monde. Un traitement de texte, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple, c'est une fonction ouvrir un fichier, lire le fichier. Ce genre de choses n'est pas protégé. Tout le monde peut avoir simplement la mise en place d'un programme qui va faire un traitement de texte. Donc on a WordPress, on a... C'est vrai qu'on a que Word qui existe. Ah ouais, c'est embêtant quand même. Bon, ça a quand même des effets de bord, le droit d'auteur, c'est qu'on arrive quand même à des monopoles dans le domaine du logiciel, Et en fait, le monopole dans le domaine logiciel est quasiment est très difficile à combattre. Mais en même temps, ça n'empêche pas des gens qui font d'autres logiciels, comme par exemple les gens d'Apple, d'avoir fait des propres versions de traitement de texte. Ça n'empêche pas les gens du logiciel libre de faire des traitements de texte qui ressemblent graphiquement ou fonctionnellement à Word et qui ne sont pas Word. Ce qui est protégé, c'est les heures qu'ils ont passées à faire ce programme. Dans le domaine du brevet, l'idée en gros, c'est qu'on ne protège pas l'implémentation. C'est qu'on protège carrément l'idée. On va dire simplement, on va protéger l'idée de faire un traitement de texte. Alors il y a un exemple qui est célèbre aux États-Unis, c'est Amazon. Celui-là est célèbre parce qu'il est intéressant, parce qu'il est à la fois à la frontière de l'informatique et du business. Amazon a déposé un brevet sur une méthode informatique qui permet le commerce électronique en un clic de souris. C'est-à-dire que vous allez sur Amazon c'est un vendeur de CD, de bouquins, etc., un peu comme Fnac. Donc vous remplissez votre panier, vous donnez quelques informations, vous payez, puis la prochaine fois où vous revenez, vous dites « Oui, bonjour, Fred, c'est toi, je te connais, machin, etc. » Et puis, en cliquant sur un clic, une fois que vous avez fait votre panier, vous avez plus besoin de donner les informations que vous avez remplies la prochaine fois, la précédente fois, il les a déjà en mémoire, donc c'est ce qu'on appelle le one-click shop. On fait l'achat en un clic de souris. Est-ce qu'ils ont protégé ? C'est pas l'implémentation informatique où ils ont passé des heures de développement là-dessus, qui est déjà protégé par le droit d'auteur. Ce qu'ils ont breveté, c'est l'idée générale d'utiliser un outil qu'on appelle un cookie, qui a été inventé par une société précédemment qui s'appelle Netscape. Donc c'est même pas un truc qui a été inventé par Amazon. Et le principe du cookie, c'est quoi ? C'est un fichier qui se balade entre le client et le serveur et qui contient des informations. Donc en gros, on pourrait dire c'est un numéro. Si je vous dis que c'est un numéro, par exemple, vous pensez au numéro de sécurité sociale. Avec le numéro de sécurité sociale, quand je vais voir pour mes remboursements, je leur donne mon numéro de sécurité sociale, j'ai pas besoin de leur dire comment je m'appelle, où j'habite, etc. Ils le savent. C'est exactement la même idée. L'Amazon a breveté aux États-Unis ce procédé, parce qu'aux États-Unis c'est légal, en France ce n'est pas légal, de manière en fait à verrouiller tout un pan de l'économie, qui est en fait le commerce électronique en ligne, au détriment de ses concurrents. Et ce qui est intéressant dans le domaine des brevets logiciels, c'est qu'en fait, les brevets logiciels ne sont jamais utilisés. C'est-à-dire vous avez des gens qui déposent des tas de brevets logiciels et ne les utilisent jamais. Par contre, quand un concurrent arrive, et par exemple dans le cas d'Amazon, il y a une grosse librairie très, très ancienne qui s'appelle Barnes & Noble, qui avait co-décidé de faire de la vente en ligne, etc. Sauf qu'ils avaient un avantage par rapport à Amazon, c'est qu'eux, ils avaient l'expérience de la gestion des stocks, etc. Parce que beaucoup de gens dans la techcommis sont cassés la gueule à cause de la gestion des stocks. Donc Barnes avait bien la gestion des stocks en expérience. Donc ils se sont dit, on va faire du commerce en ligne, pareil. Donc on va mettre en place un site. Donc ils ont mis un truc. Alors évidemment, ils ont mis un truc, ils ont essayé de faire un petit peu comme a fait Amazon, comme fait la Fnac, c'est-à-dire de rendre les choses simples pour l'utilisateur final, donc il ait le moins de choses à faire. Et Amazon s'est dit, mais attendez, là ce que vous utilisez comme technologie, c'est ce que j'ai inventé moi. C'est le fameux numéro de sécurité sociale, c'est le fameux numéro qui est sur la carte bleue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme Barnes était un concurrent direct d'Amazon, Amazon a attaqué. Alors ils ont attaqué en se disant, on va gagner parce que l'officier américain des brevets a accepté ce brevet-là. Ils ont accepté ce brevet-là alors que ce brevet n'est ni inventif, qui découle de l'effet de l'art, parce qu'il découle des cookies, découle d'autres choses, et qui n'a aucun caractère industriel. Rappelons-nous que les brevets doivent avoir un caractère industriel, ce qui dans le domaine du logiciel est quand même très difficile. Donc l'office américain a accepté, donc Amazon était convaincu en fait qu'ils allaient gagner le procès. Et il se trouve que ça fait 3 ans qu'ils sont en procès avec Barnes, ils ont gagné la première fois, ils ont perdu la seconde fois. Ça coûte un fric fou, ce truc-là. Et au final, en fait, le brevet va être annulé. Donc on constate en fait que dans ce domaine-là, on a des grosses compagnies, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que déposer des brevets dans le domaine logiciel employeur, ça coûte un fric fou. Le droit d'auteur, ça ne coûte rien. À partir du moment où vous créez un logiciel, le droit d'auteur vous protège automatiquement. Éventuellement, la seule chose que vous pouvez faire, c'est envoyer au notaire le programme de manière à être sûr que c'est vous qui avez l'antériorité. Dans le domaine du brevet, pas du tout, parce que vous devez prouver justement qu'il n'y a pas d'antériorité, vous devez prouver effectivement que c'est nouveau. Donc généralement, vous engagez des avocats, etc., qui en plus écrivent dans un domaine très juridique, très complexe, pour que ça soit compréhensible par leurs petits camarades, qui sont de la même promo d'ailleurs de l'Office européen des brevets, pour qu'eux l'acceptent. Et ensuite, bien entendu, vous avez un tas de brevets comme ça qui coûtent très cher, donc vous n'avez que les grosses compagnies en fait qui déposent des brevets sur des logiciels, et ils créent un sort de champ de mine en se disant, moi je dépose des tas de brevets sur des trucs plus ou moins évidents, donc par exemple c'est le cookie sur Amazon, d'autres ont déposé un brevet par exemple sur le fait que quand un curseur passe sur une zone, un curseur noir passe sur une zone noire, il devient blanc le curseur. Bon, en informatique c'est un truc évident, on utilise le OU exclusif, qui est un truc de logique, qui est un truc de mathématiques. Bon, quelqu'un a breveté ce truc-là aux États-Unis. Donc, typiquement, si un jour vous étiez un concurrent de cette entreprise aux États-Unis, il pourrait vous emmerder sur ce petit brevet-là. Alors vous dites, bon, je vais utiliser autre chose. Emmerdant, telle entreprise a un autre brevet. Parce que le problème, c'est que dans l'informatique, un programme informatique, c'est des millions de lignes de code. Et l'informatique, comme l'a démontré Donald Knuth, c'est rien d'autre que la logique appliquée. Donc en fait, on a un million ou plus de logiques sur lesquelles, en fait, potentiellement, on peut très bien avoir des brevets déposés par des grandes sociétés qui ont les moyens de déposer ces brevets, en se disant de toute façon, même si au pire, devant les cours de justice, on se fait annuler, de toute façon, il faut aller en justice. Parce que quand vous êtes développeur indépendant, quand vous êtes une petite PME, PMI, que vous voyez arriver, par exemple, une boîte qui a des millions, qui a 3 ou 4 juristes à temps plein, qu'est-ce que vous dites ? Lui, bon, bah, je vais résister, machin, je vais résister. Il y en a qui l'ont fait il n'y a pas longtemps. On en a parlé dans l'IB des Français il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, ils sont ruinés. Alors, ils sont contents, ils ont gagné, ils sont ruinés. Alors qu'est-ce que vous faites en général ? En général, vous faites racheter. C'est le truc, c'est-à-dire que vous faites racheter. C'est ce qu'a fait, bien entendu, pas mal de sociétés dans ce domaine-là. Dans le domaine de mes logiciels, on constate que le brevet logiciel arrive à une concentration, en fait, par rapport aux multinationales, ne favorise pas l'innovation. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, le brevet logiciel, s'il favorisait l'innovation et la créativité dans le domaine du logiciel, pourquoi pas ? Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune étude économique qui montre que les brevets logiciels sont favorables à l'innovation. Aucune. Par contre, il y a des études économiques qui sont basées sur l'expérience américaine et japonaise qui montrent au contraire qu'aux États-Unis, le brevet logiciel a limité l'innovation. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Europe, qui est pour les brevets logiciels ? Ben, on retrouve quelques multinationales. Par exemple, en France, Alcatel, Thomson. Bien entendu, on est moyen, on est des poules de brevets logiciels. Et on retrouve des experts en propriété intellectuelle. Bien entendu, pour eux, plus de brevets logiciels, c'est plus d'argent. Parce qu'en l'occurrence, le droit d'auteur, ça leur rapporte pas grand-chose. Par contre, les brevets logiciels, en termes de recherche en intériorité, ça leur coûte de l'argent. Alors quand il y a des procès, c'est jackpot. Et qui est aussi pour ? C'est l'Office européen des brevets. Alors, je dirais que le point commun qu'on a tous là, c'est à la limite, je ne m'aventurerai pas sur dire qu'on a d'autres points communs, même si ce sont des vrais. On a un point commun, c'est l'Office européen des brevets, qui est une invention extraordinaire. Il faut savoir qu'en Europe, le brevet en général, pas que le brevet logiciel, est régi par la Convention européenne du brevet de 1973, Munich, qui est signée par une vingtaine d'États, qui ne sont pas tous d'ailleurs de la communauté européenne, comme le Liechtenstein, la Turquie qui essaye de rentrer, qui est un pays démocratique, comme on le sait bien, etc., Monaco. Et c'est un truc assez marrant, l'Office européen des brevets, parce que c'est un organisme lucratif, purement lucratif, qui est financé sur les dépôts de brevets. Donc plus ils acceptent de brevets, plus ils gagnent de l'argent. Et ce qui est marrant, c'est que les représentants de certains des gouvernements dans ces offices européens des brevets, par exemple, je vais prendre l'exemple de la France, qui est, ben, c'est le président de l'INPI. Alors l'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle. Moi, je dis que industrielle. Bon, on va se dire, mec, qui est le représentant de la France là-bas, c'est l'INPI. Bon, il est quand même un petit peu lui aussi jugé parti. Et en fait, qu'est-ce qu'on a constaté depuis une vingtaine d'années, enfin, au niveau européen, c'est que l'article 52.2.C de l'Office européen des brevets exclut de façon très claire de la domaine de la brevetabilité les logiciels en tant que tels. Il exclut aussi les méthodes mathématiques. Il exclut aussi les arts. Alors c'est fameux en tant que tel, en fait. Fameux en tant que tel, ça a fait gloser beaucoup de juristes, etc. Et plutôt que de se poser la question, plutôt que d'appliquer les règles, mais en fait, les différentes cours d'appel de l'Office européen des brevets se sont dit, qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel ? Ah, on peut pas breveter un logiciel tel qu'il est là comme ça. Ouais. Donc s'il rentre peut-être dans un processus qu'on peut breveter entièrement, ben, finalement on va breveter ensemble. On aura quand même breveté le logiciel. Alors, je vais prendre un exemple. Tu parlais des recettes de cuisine, on ne peut pas breveter les recettes de cuisine. C'est vrai, on ne peut pas breveter les mathématiques. C'est vrai que par exemple, on ne peut pas breveter, a priori, l'algorithme de division rapide. Par contre, on peut breveter la machine qui va mettre en place l'algorithme de division rapide. Quand on parle de recettes de cuisine, et là c'est le lien entre business à nouveau et informatique. Imaginons que vous soyez un magasin, un supermarché. Supermarché, c'est quoi ? Votre business, c'est de vendre de la bouche. Vous dites qu'il y a un moyen de vendre de la bouche plus rapide, et encore plus, c'est de donner, par exemple, des recettes de cuisine à l'entrée de votre magasin. C'est une idée qui est pas con. À la limite, vous donnez des recettes de cuisine. Bien entendu, les ingrédients sont juste à côté, machin. Voilà. Vous dites, bon, c'est tellement génial cette idée que je vais empêcher les autres de le faire. Parce que, le problème, c'est que c'est un truc tellement évident, et puis en plus, ça empêcherait totalement la concurrence. Donc, bien sûr, ça marche pas, ça. Vous ne pouvez pas refaire. Mais là, il y a les fameux brevets logiciels en tant que tels. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un logiciel qui va quoi ? Vous gérez une base de données avec vos clients, ce que vous avez en stock, vos recettes de cuisine. Et là, vous avez un processus dans lequel un logiciel intervient. Alors nous, naturellement, on se dit, ouais, c'est peanuts, c'est une pirouette, en fait, c'est pour contenir la loi. Ben oui, c'est pour contenir la loi. Et le problème, c'est qu'en Europe, l'Office européen des brevets, et c'est reconnu par des experts en propriété intellectuelle, a accordé à peu près 30 000 brevets de ce type-là. C'est-à-dire des brevets, en fait, qui seront en justice annulés. Enfin, tout le monde en est convaincu qu'ils seront en justice annulés, mais il y en a à peu près 30 000. Donc quand on dit que les brevets logiciels en Europe n'existent pas, c'est faux. Ils existent déjà, mais dans des chaînes imbriquées, dans lesquelles, en fait, la plupart du temps, c'est totalement bidon comme brevet. Par contre, Le problème, c'est que pour le savoir, il faut aller en justice. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, on se dit dans ce cas-là, on a un truc qui dérive, donc qui n'applique pas ça de la loi sur laquelle il est censé se fonder, qui a strictement un but lucratif, donc quelque part, on peut se poser des questions. Donc on se dit, ben, la meilleure chose à faire, c'est on fait un audit, on voit effectivement si le brevet, c'est bien pour le logiciel, pour le domaine, etc. Puis surtout, on arrête les conneries. Il y a l'officier enfin les brevets, on arrête les conneries. Moi, je suis tellement innocent que je pensais que c'était ça. Mais en fait, non, c'est l'inverse. C'est que l'office européen des brevets s'est dit « Ouais, mais c'est con, hein, ça fait quand même quelques années, une quinzaine d'années qu'on accepte des trucs qui, d'abord, ne correspondent pas à la loi, à la convention qu'on a signée, enfin, qui nous régit, plutôt, et puis en justice, ça passera pas. Ben, » nous, on va convaincre, en fait, les gouvernements de changer la loi. Et c'est en train de ce qui est en train de se passer, en fait. C'est-à-dire, depuis 3 ans, maintenant, l'office européen des brevets essaye de légaliser le propre viol de sa convention européenne sur le brevet qui est censé le régir. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'alors qu'il n'y a aucune étude économique qui montre que le brevet, c'est favorable à l'innovation, etc., etc. Par contre, il y a des études contre. Que les seuls qui s'expriment pour, ce sont des gens qui sont directement intéressés, c'est-à-dire les experts en propriété intellectuelle et les grandes compagnies, qu'il y a des citoyens en France, en Allemagne, dans différents pays, qui sont développeurs indépendants, qui sont patrons de PME, PMI, qui disent depuis très longtemps que ça va mettre en danger l'économie industrielle, logicielle européenne, et bien la loi est en train de changer. La loi est en train de changer aujourd'hui, elle ne tient plus à grand chose, c'est-à-dire qu'elle tient en gros à une décision des gouvernements français et allemands. Et donc, on va arriver à une situation où, en fait, on va valider, légaliser une pratique scandaleuse d'un office européen qui, en fait, dérive complètement. Et ce qui est intéressant dans les dernières discussions qu'on a, parce que pas mal de discussions avec les gens qui sont censés, effectivement, nous présenter, nous disent, oui, mais bon, d'accord, on va comprendre que pour le logiciel, par exemple, 20 ans, c'est peut-être trop long, 20 ans, la limite. Le logiciel, c'est là, ça va tellement vite, on va mettre 5 ans, etc. Oui, il faudrait peut-être donner à l'Office européen des brevets peut-être des moyens d'être plus strict sur ces méthodes de vérification. C'est-à-dire qu'on en revient à l'argument qu'on fait confiance à nouveau à l'Office européen des brevets pour pouvoir contrôler sa propre pratique. Alors qu'on montre depuis 15 ans, eux-mêmes montrent depuis 15 ans, qu'ils sont incapables de se contrôler. Donc ça, c'était pour le lien. En fait, j'avais préparé l'antisèche, mais je suis passé à autre chose. C'est pas fait. Voilà, ce que je voulais aussi parler, c'était l'effet technique. Là aussi, dans les inventions, alors là, c'est plus tellement le domaine du logiciel, il y a des critères pour qu'une invention soit accordée. Bon, il faut d'abord que ce soit inventif, que ça ne soit pas dépendre de l'art, que ce ne soit pas nouveau, et que c'est un caractère industriel. Oui. Et alors, le problème, c'est que l'Office européen des brevets, ça a aussi quand même un petit peu tourné-boulé, ce truc-là. Et donc, ils ont un certain nombre de cours d'appel qui ont inventé un terme qui est absolument génial, qui est l'effet technique, dont tu as parlé tout à l'heure. Alors l'effet technique, c'est absolument génial parce que personne n'est capable de définir l'effet technique. Dans le domaine de logiciel, par contre, j'aimerais bien que quelqu'un me définisse ce qui n'est pas technique dans un logiciel. Parce qu'un logiciel, forcément, c'est technique. Alors, cette petite supercherie de dire qu'à partir du moment où une invention a un effet technique qui peut être brevetable, alors que ça ne correspond pas du tout à la loi, on arrive à breveter des trucs, comme par exemple des méthodes de business. Parce qu'aujourd'hui, la dérive qu'il va avoir sur les brevets logiciels, si les brevets logiciels sont validés, effectivement, ça va emmerder à peu près 80% des gens qui font du logiciel en Europe. Et ça va favoriser à peu près même pas 20%. Mais surtout, c'est que la dérive qu'on va avoir, c'est que ça va renforcer encore l'effet technique, et on va arriver à des dérives telles qu'en fait, les méthodes intellectuelles, les méthodes de business, et les méthodes éducatives vont être brevetées. À partir du moment où on va introduire un ordinateur dans la chaîne, l'Office européen des brevets, de toute façon, comme lui, il y a le brevet de l'ESSEC, et qu'il est bien conseillé par ceux qui le payent, va accorder des brevets sur des méthodes éducatives. Donc demain, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'e-learning. Alors e-learning, ça peut être soit apprendre avec des ordinateurs, soit apprendre à distance. Mais imaginez simplement que les méthodes d'apprentissage soient brevetées, que les idées soient brevetées, mais sous prétexte simplement qu'elles sont mises en place par un ordinateur avec un effet technique. Là, demain, une grosse compagnie, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, qu'elle soit européenne ou américaine, ben, pourra tout simplement bloquer un plan complet de l'éducation de nos enfants. Dernière chose avant de passer la parole, un des arguments qu'on nous dit souvent pour légaliser les brevets en Europe, c'est qu'on nous dit que ça existe aux États-Unis et au Japon, donc il faut le faire. Ben, je dirais que pour se protéger des brevets américains et japonais, ne pas accorder les brevets, c'est la meilleure des protections, très clairement. Et deuxième argument qu'on nous dit, les accords APIC, les fameux accords de droit sur la propriété intellectuelle liée au commerce, nous obligent à une uniformisation. Or, le problème, c'est que tout dépend des lectures qu'on a des APIC. Bien sûr, la lecture qui est faite de ces APIC-là est faite par les gens qui sont de la propriété intellectuelle à nouveau, qui nous disent « Oui, les APIC nous obligent à uniformiser. » Or, la lecture claire des APIC ne nous oblige pas, donc, au contraire, à uniformiser. Donc, il n'y a aucun argument pour breveter quoi que ce soit dans le domaine du logiciel. Au contraire, on doit rester au niveau du droit d'auteur, qui, pour ailleurs, a plein de problèmes de droit d'auteur, il faudrait réformer, mais qui permet au moins une libre concurrence, une innovation, et aux gens de faire ce qu'ils veulent. Et il n'y a aucun argument pour ça. Les seuls arguments, finalement, ce sont des arguments, je dirais, de légalisation de pratiques scandaleuses et surtout illégales d'un office européen qui est, je le rappelle, à but lucratif et dans lequel chaque pays a autant de voix, c'est-à-dire sachez quand même que Monaco et Liechtenstein ont autant de voix que la France. Alors après, bien sûr, c'est des négociations. On peut imaginer que quand on négocie avec des pays comme Monaco et Liechtenstein, on peut imaginer que leur poids n'est pas forcément lié à leur population, mais peut-être à d'autres arguments. Et c'est très clairement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'année dernière, où il y a eu une révision de la Convention européenne sur le brevet, il faut savoir que ça s'est passé très très peu que la partie de brevet logiciel passe. Ça s'est passé uniquement au fait que la France, effectivement, ait mis son veto. Mais passé très très peu. Donc on est finalement à la merci, effectivement, de pays qui ont des intérêts très clairs. Ces pays-là, leur seul intérêt, en fait, c'est d'augmenter la masse de capitaux qui transitent chez eux. Qui transitent par quoi? Pas par le PME, PMI, bien entendu, mais par les grosses structures, par les gens qui ont le capital. Donc, très clairement, on est sur une dérive qu'il faut stopper. Aujourd'hui, on est sur l'inverse. C'est-à-dire que les gouvernements, s'ils valident les modifications demandées par l'Office européen des brevets, auront simplement validé le fait qu'on peut violer la loi et que finalement, pour amnistier les coupables, il n'y a pas besoin de les amnistier, il suffit de changer la loi. Je rappelle ça à un moment où, quand même, le gouvernement qu'on a, et là, je ne parle pas de tendance politique ou pas, c'est quand même l'un des gouvernements qui a fait le plus de choses dans le domaine de sur la société de l'information, en bien et en mal ces derniers temps. Mais très clairement, s'ils laissent passer ce genre de choses, c'est qu'ils n'ont rien compris, en fait, à la problématique que leur proposent les gens qui sont censés soutenir. Parce que ce sont des gens qui nous disent souvent, pouvez-vous les gens du logiciel libre, moi je suis du logiciel libre. On vous aime bien, on fait plein de choses pour vous. Et nous, on a essayé de leur expliquer, ouais, mais vous pouvez faire plein de choses pour nous. Par exemple, là, j'ai vu dans l'IB dernièrement qu'ils voulaient faire une loi Linux, c'est-à-dire qu'ils obligeraient les administrations à utiliser du logiciel libre. Ce qui est complètement bidon, ce qui est absolument scandaleux, parce que c'est comme quand on imposait du bulle partout. Il ne faut absolument pas imposer un logiciel, il faut imposer d'autres choses. Il faut imposer des standards ouverts de communication et de format de données, mais il ne faut pas imposer des logiciels. Et nous, ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que la seule chose qu'il y a à faire aujourd'hui pour des gens comme nous, et pour l'industrie logicielle européenne, et pour les gens qui font du business, et pour nos gosses au niveau des méthodes éducatives, c'est d'arrêter l'Office européen des brevets, de demander, nous c'est souvent dans notre cas, sa dissolution immédiate.